Albert Sim, duel à mort. Il y avait 15 jours que Félix Séraphin Cabrillard était entré, en qualité de troisième élève, à la pharmacie Pichancourt, la plus importante de Chèvremont-en-Bresse, quand un soir d'octobre, le timbre de la porte retentit, et une jeune fille, une mignonne petite blonde, aux yeux bleus et aux joues roses, apparut tout essoufflé sur le seuil de l'officine. Cabrillard, qui était en train de découper des étiquettes, s'élança, comme c'était son devoir, à la rencontre de cette cliente. Mais le premier élève, Nestor Richefeu, qui en principe ne se dérangeait jamais, à moins qu'il ne s'agît, comme à présent, de quelques fréminois, avait déjà planté là le traité de chimie organique dans lequel il paraissait plongé, et s'inclinait le plus galamment du monde devant la jeune personne. « Mademoiselle, vous vous désirez, mademoiselle ?»« Monsieur, je viens, c'est pour mon père, monsieur. Il a pris froid. Il était parti dès le matin pour la chasse et il est revenu avec une douleur à l'épaule, ou une douleur très vive qui le tient là, comme cela, dans le haut du dos, dans tout le bras. Il ne peut pas se remuer, il souffre, il crie. »
« Rhumatisme aigu, insinua Richefeu.
Nous l'avons frictionné avec de l'alcool camphré. »«
Pas mauvais, oui, opina l'aspirant apothicaire.
Mais cela n'a rien fait, monsieur, rien du tout. Alors j'ai couru chez le docteur Morel, notre médecin. Par malheur, il n'est pas chez lui. Et comme j'allais rentrer, je pensais que peut-être vous pourriez me donner quelque chose qui soulagerait mon pauvre papa. »
« Certainement, mademoiselle, rien de plus facile. Je vais vous préparer ce que le docteur Morel lui-même aurait ordonné. C'est tout comme si vous l'aviez vu. Une lotion infaillible, un baume souverain. »«
Combien je vous remercie.
Dans une petite demi-heure, ce sera prêt, mademoiselle. Je vous enverrai cette lotion, à moins que vous ne préfériez attendre. »«
Oh non, monsieur, j'ai hâte de retour. Ne manquez pas surtout. » « N'est-ce pas, monsieur ?»«
En ayez crainte, mademoiselle, j'ai bien l'honneur. » Et Nestor Richefeu, qui avait reconduit la jeune fille jusque sur le trottoir, referma la porte. Soudain, il se frappa le front. « Oh, imbécile que je suis, triple brute !»«
Quoi donc, qu'est-ce qui te prend ?» demanda le deuxième élève. Théodore Ladernois, qui, retenu dans le laboratoire attenant la pharmacie, n'était arrivé qu'au milieu de l'entretien.
« Son adresse, mais où demeure-t-elle, cette petite ?»« Cabrilla, allez vite, nom d'un chien, cours après !»«
Pas la peine, Cabrilla. Vous savez ce que c'est, mon vieux. Tu perds la tête dès qu'un cotillon entre ici, » répliqua l'Ardenois. « Comment, tu la connais pas ? T'avais l'air si à l'aise avec elle, tu la couvais d'un œil si... »
Enfin, qui est cette jeune fille ? Interrompit Richefeu avec impatience. Où habite-t-elle ?
C'est la petite Desormeaux, mademoiselle Adrienne Desormeaux, dont le père, un veuf encore vert, malgré son rhumatisme, possède un grand chantier de bois et de sucerie à l'extrémité du faubourg Saint-Étienne, ce qui n'empêche pas d'habiter tout près de nous, rue haute. Cette longue maison basse a précédé d'une cour avec grille.
Ah, comment, c'est là ?
Oui, c'est là. Je m'étonne qu'il faille te l'apprendre, je croyais bien que...
Mais toi-même, comment es-tu si bien renseigné ?
Belle malice ! Exclama l'Ardenois. Mademoiselle Desormeaux passe tous les matins avec sa bonne. Oui, tous les matins. Puis 2 mois au moins, époque de sa sortie du couvent, j'imagine. Entre 8 et 9, là, devant la pharmacie, pour se rendre à la messe. Alors, l'ayant aperçu, je me suis informé. J'ai interrogé la femme de chambre de la patronne, entre autres. Cette grande bringue d'Ernestine, voilà tout le mystère.
C'est étonnant, s'écria naïvement Richefeu. Je l'avais pas encore remarqué, moi.
Bien, commence-moi tout, ma vieille, répartit le jeune Lardenois dans sa profonde sagesse.
Et inutile de te demander si tu en tiens pour elle.
Oui, inutile, parce que je ne le sais pas encore bien moi-même.
Savez-le peut-être, conclut avec la même remarquable judiciaire Théodule Lardenois. Tout en écoutant son compagnon en discordant avec lui, Nestor Richefeu s'était mis en devoir de confectionner le plus efficace des liniments, l'irrésistible baume annoncé. Quand la besogne fut terminée, le goulot du flacon dûment entouré de sa coiffe verte, soigneusement ficelé, cacheté, le flacon lui-même enveloppé d'un papier blanc comme neige, Nestor, au lieu de le confier au garçon de peine, à ce satané petit flandrin de Vincent, si pertinemment baptisé l'endormi, glissa la bouteille dans sa poche, s'esquiva sans mot dire du laboratoire par la porte ouvrant sur le corridor, et gagna la rue. « Dis donc, Cabria, dit Lardenois, à qui ce manège n'avait pas échappé. Tu n'as pas vu ? Quoi donc ? Tu ne demandes pas où est passé cet animal de Richefeu ? Non, pourquoi ? Mais parce que monsieur le Joliquaire, au lieu d'envoyer Vincent chez les Desormeaux, n'a pu résister au désir d'y aller lui-même, voilà, j'en suis certain. Oh, j'ai entendu grincer la porte du couloir. » Situé dans le plus riche quartier de Chèvremont, au coin de la place de la mairie et de la Grand-Rue, la pharmacie riche en cour, avec ses deux longues façades garnies, selon la coutume, de gigantesques bocaux rouges et bleus, jaunes de chrome et verts d'émeraude, sa double plinthe de marbre noir et sa double enseigne en lettres d'or, Pichancourt, ex-certaine des hôpitaux de Paris, avait tout à fait belle apparence. Elle n'aurait pas débarré les boulevards de la capitale. On était unanime à la reconnaître à Chèvremont, en Bresse, et à la proclamer même le plus élégant, le plus cossu des magasins de la ville. Sur chacune des deux immenses glaces de la devanture, une inscription se détachait en légende. Anticorza, marque déposée, première médaille d'or. C'était cette spécialité, précisément, qui obligeait M. Pichancourt à se pourvoir de 3 aides ou élèves, tandis que les autres pharmaciens de la localité se contentaient généralement d'un seul qui jouissait même de nombreux loisirs. Fanfaré par toutes les trompettes de la réclame, répandu à profusion dans toutes les officines de France et de Navarre, universellement connu et employé, sans pour cela, j'en ai une vague crainte que sa réputation fût des plus méritées, l'Anticorizza était pour son inventeur tout au moins une excellente affaire. M. Pichancourt avait dû construire, pour la fabrication de ce remède, un laboratoire spécial, une véritable usine à 5 km de la ville au Val d'Amblie, près de la frontière suisse. Toutes ses journées se passaient dans cet établissement à surveiller ouvriers et ouvrières, comptables et expéditionnaires, camionneurs et garçons de peine. Et comme le contre-choc de ces tours de charge se faisait immédiatement ressentir jusqu'à la boutique de la place de la mairie, jusqu'à la maison mère, le pharmacien avait été contraint d'abord d'obvier à son absence et se faire remplacer ensuite de prendre un second élève, total 3 potards. Nestor Richefeu, le plus ancien, celui à qui M. Pichancourt avait délégué ses pleins pouvoirs, était un solide gaillard de 24 ans, trapu, courtaud, largement râblé, joufflu et rubicond comme une pomme d'api. Le second, Théodule Alcide Lardenois, qui avait un an de moins, était tout aussi solidement étoffé et à peu près aussi mafu et rougeau que son supérieur. Comme lui, il appartenait à une famille de paysans bressans. Le troisième, Félix Cabria, entrait dans sa 22e année et avait pour père un maître d'armes de Besançon. Il était de taille moyenne, pâle et maigrelet, avait l'air doux, réservé, distingué, somme toute, et depuis 2 semaines qu'il faisait partie du personnel de la pharmacie Pichancourt, ne s'était pas encore regimbé contre les inévitables exigences de ses deux aînés. Il y avait près d'une année que ceux-ci vivaient côte à côte, et jusqu'à cette soirée d'octobre, à part quelques piques insignifiantes, la meilleure intelligence n'avait cessé de régner entre eux. Mais, comme la poule du fabuliste, Mademoiselle Adrienne désormais survint. Et voilà, la guerre allumée. Entre nos deux coqs, Nestor Richefeu et Théodule Alcide Lance de Noir. Le lendemain matin, sur les 9 heures, à son retour de la messe, Mademoiselle Desormeaux, escortée de sa gouvernante, pénétrait de nouveau dans la pharmacie. Il faut croire que le baume souverain n'avait produit que fort peu d'effet, car la jeune fille tenait pliée dans son livre de prière une ordonnance du docteur Morel. Cette fois, ce fut Théodule Ardenois qui s'avança. Nestor Richefeu, monsieur le joli cœur, était à son tour absent de la boutique et occupé dans le laboratoire. « Monsieur, votre père ne va donc pas mieux, mademoiselle ?»«
Non, monsieur, hélas, il n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Toujours son rhumatisme dans l'épaule. Et puis la fièvre qui s'est déclarée, une grosse fièvre. Oh, monsieur Morel est venu dès le matin. »
Mais heureusement que c'est sans gravité, crut devoir alléguer l'Ardenois pour la tranquilliser.
Mais c'est ce qu'assure, oui, monsieur Morel. Il n'y a aucun danger, rien de sérieux à redouter. N'empêche que papa souffre bien. Nous avons eu beau le frictionner, Naïs et moi, avec le monsieur qui était là nous a apporté hier soir, rien n'y a fait. Monsieur Morel a même déclaré qu'il aurait mieux valu ne rien faire du tout et attendre sa visite. Aussi, vous serai-je infiniment reconnaissante de préparer l'ordonnance sans tarder.
Mais tout de suite, mademoiselle, à l'instant même, je vous porterai moi-même aussitôt.
Vous serez bien aimable, monsieur.
Juste au moment où Adrienne et sa gouvernante, Naïs, quittaient la pharmacie, Richefeu y entrait par la porte opposée à celle de la rue, la porte du laboratoire.
« Tiens, mais c'est Mademoiselle Desormeaux qui était ici, en vénard !»«
Oui, elle-même, avoua l'Ardenois, qui était déjà en train d'exécuter l'ordonnance du docteur Morel. » Lorsqu'il eut fini, il mit la fiole et les deux petits paquets de drogue dans sa poche, et comme avait fait Richefeu la veille, s'apprêta à sortir, mais ostensiblement, par la porte du magasin et non par celle du corridor. « Où vas-tu donc ?» demanda le remplaçant de M. Pichancourt.
« Porter l'ordonnance des Ormeaux. »
Et Vincent, alors à quoi sert-il ? C'est la besogne du gardien de laboratoire et non pas celle des élèves de porter les ordonnances à domicile.
« Mais tu es bien allé, toi, porter celle de Mademoiselle Desormeaux. »«
Moi, je suis allé, qu'en sais-tu ? C'est pas vrai, d'abord. »«
Oh, t'es un fier toupet !» s'écria l'Ardenois. « Nous t'avons vu, Cabria et moi, le faufiler. Et puis Mademoiselle Desormeaux, tu es encore de nous le confirmer à l'instant. Même que le docteur Morel a trouvé que t'aurais mieux fait de te tenir tranquille. » plutôt que de te mêler de soigner ces malades.
Mais je te dis que tu ne sortiras pas, Richefeu. Moi, je te dis que je sortirai. Je te dis que non, moi.
Je te dis, allez, au revoir, Nestor. À tout à l'heure, ma vieille.
Pour rien au monde, Nestor Richefeu n'eut omis de se trouver à la pharmacie le lendemain à l'heure de la messe. Calculant que Mademoiselle Desormeaux profiterait très probablement de sa sortie matinale pour apporter, comme la veille, une nouvelle ordonnance du docteur, il s'était embusqué derrière les bocaux de la montre et il épiait sa venue, son passage tout au moins. Mais Théodule Ardenois, lui aussi, était fidèle au poste et guettait sa proie. Lorsqu'il la vit entrer, il se précipita.
« Monsieur l'Ardenois, faites-moi donc le plaisir d'aller au laboratoire, surveiller votre décoction de salse pareille. Voilà 3/4 d'heure qu'elle est sur le réchaud. »«
Monsieur, j'ai pas d'ordre à recevoir de vous. »« Bon, je vous demande mille pardons, monsieur, vous avez des ordres à recevoir de moi. Monsieur Pichancourt vous l'a déjà dit, il vous le répétera s'il le faut. Allez, puis pas de discussion devant les clients, n'est-ce pas, je vous prie, filez au laboratoire. Allons, allons, acheva Richefeux. Comme Nestor Richefeux l'avait devancé auprès de Mademoiselle Desormeaux et s'était emparé déjà du carré de papier ordonnance qu'elle tenait à la main, l'infortuné Lardenois n'avait plus qu'à se soumettre à cette humiliante injonction, à céder la place à son rival, et c'est ce qu'il fit rageusement, tout furibond et fulminant. Mais aussitôt la jeune fille partie, il se rua du laboratoire dans la pharmacie, apostropha Richefeux, l'accabla d'insultes, donna libre cours à tout son dépit et à son exaspération. Richefeux ne manqua pas de se rebiffer, comme bien on pense. Les gros mots ainsi que les volants de raquettes rebondirent de part et d'autre. De part et d'autre, les menaces retentirent, les provocations criées à tue-tête firent trembler tous les locaux de l'officine et se répercutèrent jusqu'à l'extrémité de la place de la mairie. « Je t'apprendrai, moi, je te montrerai, moi. Oui, tu sauras. Voyez donc le joli merle. Regardez donc ce grand serin. Mais chauffe pas les oreilles plus longtemps, ou bien achève pas, sinon. J'aurais pas pu de moi. L'heure de doigt, je t'en avertis. J'en ai assez, Richefeux, je te préviens. » Bref, ils faillirent en venir aux mains, et sans l'intervention de leur collègue Cabrilla, ils eussent très certainement passé des paroles aux actes et transformé la pharmacie en champ d'honneur. Cabrilla leur fit comprendre tout le danger et tout le ridicule de leur conduite. Madame Pichancourt, dont l'appartement était situé au premier étage, au-dessus même du magasin, pouvait les entendre. Alexandrine, la cuisinière, attirée par le bruit, venait de se glisser dans le laboratoire pour écouter tout à son aise. « Oui, messieurs, elle était là, il y a un instant, que le patron est vendu l'affaire, et vous devinez ce qui en résultera pour vous deux. Étonnez, tous ces gamins rassemblés devant la porte. C'est à vous qu'ils en ont, c'est assez pour assister au spectacle. Oh, quel scandale !» La querelle s'apaisa donc ce jour-là, mais pour reprendre de plus belle le lendemain et se continuer de plus belle encore les jours suivants. En vain, Richefeux invoquait-il ses pouvoirs et s'efforçait-il d'imposer silence à son rival. Celui-ci haussait les épaules, l'envoyait promener, lui et son autorité, le narguait, le défiait, lui montrait le poing. « Mais approche donc, viens donc un peu ici que je te rabatte ton caquet. Monsieur Lardenois, vous ferez tant que je me verrai dans la nécessité de... Oui, de les moucharder auprès du patron, n'est-ce pas ? Non, de l'instruire de ce qui se passe et de le mettre en demeure de choisir entre vous et moi, monsieur Lardenois. Et moi, je lui raconterai au patron de quelle molle manière vous justifiez la confiance qu'il a en vous et à quoi vous employez votre temps et consacrez vos prérogatives. Quand il saura que c'est à courtiser et accaparer toutes les clientes de la maison, nous verrons la mine qu'il fera et s'y tiendra tant que ça, ne pas se priver de votre précieux concours. « Monsieur Nestor Richefeux !» Le fait est que Nestor Richefeux, ne se sentant pas la conscience absolument nette, était peu disposé à porter plainte contre son subordonné. Comme, malgré tous les baumes, lotions et frictions, le rhumatisme de Monsieur Desormeaux s'obstinait à ne pas déguerpir, Mademoiselle Adrienne continuait ses visites à la pharmacie avec la même fréquence et la même régularité. Il ne se passait pas deux jours, pas d'heure même, pour ainsi dire, que Félix Cabrilla ne se trouva contraint de rappeler ses collègues, ses anciens, à l'ordre et au calme, voire d'arrêter les mains et mettre le holà entre eux. « Mais battez-vous une bonne fois, » finit-il par leur conseiller en sa qualité de fils de maître d'armes. « Décidez-vous pour le fleuret, l'épée ou le pistolet, mais de grâce, plus de disputes, plus de cris ahuris, la paix !» « Eh bien, c'est cela. Oui, Cabrilla a raison. Battons-nous, » clama Lardenois. « Oui, ben, battons-nous. Oui, il le faut.
un de nous être trop sur terre. Battons-nous, clapit à son tour Richefeu, qui, en présence du zèle et de la fougue de son adversaire, ne pouvait décidément jamais pas reculer. Mais ni l'un ni l'autre n'avait jamais tenu un pistolet, jamais manié fleuret, sabre ou épée.
Un coup de poing, la boxe ! Vociféra l'Ardenois tout enflammé.
Comme des goujats, des ivrognes.
Fi donc, repartit Cabrilla.
C'est pour le coup que M. Bichancourt aurait vous causé préjudice à son établissement, que vous déshonorez la corporation tout entière. Ah non, 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 pas de pugilat, mes amis.
Cependant, mais alors, eh mordienne, pas besoin d'avoir hanté les salles d'escrime ni les tirs pour être à même d'appuyer le doigt sur la gâchette d'un pistolet.
Sans doute, mais il s'agit de viser, objecta Richefeu.
Il ne put les convaincre.
Le soir même, une nouvelle altercation ayant éclaté, Cabrilla revint à la charge et somma les deux adversaires d'en finir une fois pour toutes.
Boussillon, c'est moi qui éviserai le patron.
C'est insoutenable, cette vie-là. C'est à devenir fou, ma parole.
Si vous ne voulez pas vous aligner sur le terrain, tirez au sort celui de vous deux qui devra disparaître, se loger une balle sous le menton, avaler une pilule de cyanure ou de strychnine, ou s'ouvrir le ventre à la japonaise.
Comme bon vous semblera, mais pour Dieu, terminons-en.
Tiens, mais...
Oui, c'est une idée, acheva Richefeu.
Oui, nous tirons au sort, reprit l'Ardenois.
Tu nous prépareras deux pilules, Cabrilla.
Ah, vous vous décidez pour les pilules ?
Oui, il y en aura une inoffensive, l'autre enfermera un poison des plus énergiques et dont nous tout durera le temps, afin que nous ne puissions pas découvrir sur le champ l'antidote, tu comprends ?
Parfaitement, répondit Cabrilla, quoique...
Oh, vilaine besogne dont vous me chargez là.
C'est à moi que la justice s'en prendra, moi qui serai responsable.
T'inquiète pas, interrompit l'enragé l'Ardenois.
Nous aurons soin de mentionner par écrit que c'est volontairement que nous nous donnons la mort.
Tant mieux pour celui qui survivra.
Alors, comme ça, soit.
Néanmoins, ajouta Gabriella, je crois qu'il serait bon, enfin d'éviter les commérages et d'empêcher que le nom de Mademoiselle de Zormeaux ne fût mêlé là-dedans, qu'il serait préférable que l'affaire eût lieu hors de la ville, ou même, je sais pas, de l'autre côté de la rivière, à la frontière.
En effet, oui, répliqua Richefeu.
Je ne demande pas mieux, dit l'Ardenois.
L'un de vous, par exemple, pourrait se rendre à Genève, l'autre à Berne ou à Lausanne.
De cette façon, le résultat du duel causera moins de rumeurs ici.
L'origine, le réel motif, oh, sera moins facile à démêler.
Mais il a raison,
s'écrièrent ensemble les deux prétendants.
Mais tu n'as plus maintenant qu'à confectionner les pilules.
Moi, je suis prêt, clama l'Ardenois.
Et à nous faire tirer au sort, j'en gris d'impatience, acheva Richefeu.
Le dimanche suivant, qui était précisément le jour de sortie de messieurs Nestor Richefeu et Théodule l'Ardenois, nos deux potards montaient en wagon à une demi-heure d'intervalle et se dirigeaient le premier sur Genève, l'autre sur Berne. Tous deux emportaient soigneusement enfouis dans une poche de leur portefeuille ou au fond de leur porte-monnaie une microscopique boîte ronde contenant la susdite pilule « La vie » ou la mort. À Genève, aussitôt hors de la gare, Richefeu, qui, malgré ses très légitimes appréhensions, se sentait un impérieux appétit, s'achemina vers une des plus confortables hôtels de la rue du Mont-Blanc, y retint une chambre et s'assit à la table d'hôte, où il fit amplement et magnifiquement honneur au déjeuner. Il alluma un cigare ensuite, un pur Havane, et alla s'installer sur la terrasse d'un café du Grand Quai. Après s'être d'abord dit, s'être fermement, irrévocablement promis, qu'aussitôt descendu du train, il se débarrasserait de sa terrible incertitude et liquiderait son sort, Il s'efforçait à présent de chasser cette anxieuse idée, de se donner le change et s'étourdir. Il était résolu de reculer le plus possible l'épouvantable échéance. Il faisait un temps inespéré, un clair et gai soleil de l'été de la Saint-Martin. Réconforté malgré lui, pour ainsi dire, et ragaillardi par la fine bouteille de pommard dont il avait arrosé son dessert, et par la tasse de moka et les petits verres de chartreuse qu'il venait d'absorber, aussi bien que par cette radieuse après-midi, ses pimpantes toilettes qui défilaient sous ses yeux, ses sveltes tailles, ses minois provoquants, par ce lac superbe, cette immense nappe d'azur et d'argent qui miroitait en face de lui, par tout ce qui, ce réjouissant spectacle et ce féerique panorama, Nestor Richefeux s'abandonnait à une sorte d'ivresse guillerette et fringante, savourait tout le bonheur de vivre. De temps à autre, pourtant, ses sourcils se fronçaient soudain, un frisson le secouait. L'horrible pensée lui était brusquement revenue à l'esprit, lui avait traversé le cœur comme un coup de poignard. « Bast, nous verrons ce soir après le dîner. J'ai encore le temps. À quoi bon se tourmenter d'avance? C'est stupide. Allez, n'y serons plus, voyons, secouons-nous, hop !» Et pour faire diversion, il se leva, se mêla à la foule des promeneurs, erra le cigare aux lèvres le long des quais. Vers les 7 heures, il regagna l'hôtel, et bien qu'il ne se sentît pas à grand faim, prit place à table, et toujours pour se remonter le moral, se donner des forces, contraignit à manger, et fêta de son mieux les plats et les vins. Quitta le dernier la salle à manger, se disant que cette fois il n'y avait plus à barguigner et que le moment était venu de s'enfermer dans sa chambre et de... Mais tout en délibérant de la sorte, il avait franchi le seuil de l'hôtel et se trouvait déjà de l'autre côté de la rue. Une affiche de spectacle frappa ses regards. Par extraordinaire, la vie parisienne jouée par les acteurs du Théâtre des Variétés de Paris. « Oh, si j'y allais, je puis bien encore attendre jusqu'à ce soir. Voilà tout, j'en serai quitte pour ne rentrer à Chèvremont que par un train du matin. Pour une fois, le père Pichancourt n'aura rien à dire, à moins que ce ne soit moi qui ai la déveine. » Au théâtre, il fit la connaissance de 2 aimables dames à qui il offrit des grogs durant un entr'acte et qui, à la fin de la représentation, lui proposèrent d'aller souper chez avec lui. Il ne rentra à son hôtel que très tard, ou très bonne heure, pour mieux dire, puisque les premières blancheurs de l'aube moutonnaient à l'horizon. Il avait la tête lourde, le cerveau congestionné, fiévreux, tout brûlant, comme si on lui eût versé dans le crâne du plomb en ébullition. Cependant, il se souvenait. La petite boîte était là, dans une pochette de son portefeuille. Il fallait s'exécuter. Autrement, que penseraient de lui ses collègues, Lardenois ou Cabria? Il avait juré, d'ailleurs. Il devait tenir son serment et montrer qu'il n'était pas un lâche. Non, il n'avait pas peur, et la preuve. Il saisit la pilule et l'avala. 1 heure plus tard, Nestor Richefeux, qui s'était jeté tout habillé sur son lit et n'avait pas tardé à succomber au sommeil, fut réveillé par des crampes affreuses, d'atroces douleurs d'entrailles. Aussitôt la mémoire lui revint, la vérité surgit brusquement. « Oh mon Dieu, c'est moi, empoisonné, fichu, oh mon Dieu !» Et il se mit à hurler comme un possédé. Les gens de l'hôtel accoururent. Vite, on envoya quérir un médecin. Les souffrances du malade paraissaient augmenter, son état empirait rapidement. Quand le docteur arriva, Nestor Richefeux gisait presque sans connaissance, secoué de moment en moment par de violents soubresauts, les lèvres spumeuses, la respiration saccadée, le front et le visage et tout le corps trempés de sueur. Un des garçons raconta que ce voyageur était rentré au petit jour, qu'il l'avait entendu trébucher dans l'escalier, comme quelqu'un qui n'a ni les jambes ni la tête bien solide, et que c'était simplement une indigestion.
Une forte indigestion, oui, ajouta le docteur, mais compliquée d'intoxication, certainement.
Et jugeant à divers symptômes que ce toxique devait être l'opium, il prescrivit les révulsifs et antidotes indiqués. Une surmontable torpeur s'était emparée de Richefeux. Ce n'est que dans l'après-midi du lendemain qu'il commença à sortir de cet état comateux et à recouvrer ses esprits. Ah oui, il était dans une chambre d'hôtel à Genève, à cause du duel pour Mademoiselle Desormeaux, de la pilule préparée par Cabrilla. Ah oui, c'était lui qui avait eu la malchance, sans aucun doute. Il n'était pas mort, pourtant. Il garda le lit ou la chambre 3 jours encore, puis le samedi matin, le docteur lui ayant rendu sa liberté, il s'achemina, encore flageolant, vers la gare et reprit la route de Chèvremont-en-Bresse. Monsieur Pichancourt était debout sur le seuil de sa porte, discutant, clamant et gesticulant, le dos tourné vers la rue au moment où Nestor Richefeux arrivait devant la pharmacie et se préparait à réintégrer le bercail. Involontairement, à la vue de son patron, il fit mine de se dérober, voulut rebrousser chemin. Mais le père Pichancourt l'avait aperçu. Ah bon, voilà l'autre à présent. Quand je vous disais qu'il s'était donné le mot, vous l'avez bien deviné. Mes gaillards ont décampé tous deux ensemble. S'en sont allés de conserve tirer une bordée, et les voici qui nous reviennent toujours de compagnie. Entrez donc, Richefeux, ne restez pas sur le trottoir, mon garçon. Richefeux obéit et aperçut dans la boutique non seulement son pseudo-complice Landenois, mais Félix Cabria et 3 autres potards déjà installés derrière les comptoirs et intronisés dans leurs fonctions. Monsieur Pichancourt continua. « Vous auriez dû m'avertir au moins, que diantre. C'est ce que j'étais justement en train de dire à Landenois. J'aurais pris mes dispositions en conséquence. Je ne vous ai jamais refusé de congé. Au besoin, je serais venu moi-même vous suppléer. Mais déguerpir ainsi, laisser ainsi une maison en plan, ce sont des procédés inqualifiables. Aucun de mes confrères, personne au monde ne tolérera jamais de pareilles escapades. Toute une semaine, 8 jours de bamboche. Ah, vous allez bien, vous, quand vous vous y mettez. Pardon, monsieur, mais je vous assure, monsieur, bégaya Richefeux. Permettez-moi, monsieur, de vous, monsieur, je vous certifie, bredouilla l'Ardenois. Quoi? Que pouvez-vous invoquer pour votre défense? Je me le demande. Il y a un fait incontestable, c'est que vous avez tous les deux, simultanément, sans me prévenir, plantez là le magasin et que votre absence à tous les deux a duré 8 jours. Vous n'allez pas me répondre que vous êtes tombé malade l'un et l'autre. Si, monsieur, oh, j'ai été malade, bien malade, interrompit l'Ardenois. Oh, moi aussi, monsieur, ajouta Richefeux. Ah, vous aussi, en même temps, comme ça. Faudrait cependant mettre un peu de variété dans vos comptes en l'air, mes bons amis. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. Puisque vous me quittiez, j'ai dû pourvoir à votre remplacement. Voilà vos successeurs, reprit le père Pichancourt en indiquant à messieurs Lardenois et Richefeux les nouveaux potards. Ah oui, ils sont 3, continua-t-il. C'est que Cabria, lui aussi, s'en va. Ah, mais lui, c'est autre chose. Je ne le congédie pas. C'est lui qui se retire pour se marier.
Il épouse Mademoiselle Desormeaux et devient l'associé de son beau-père, le marchand de bois. Vous avez joliment raison, allez, Cabria. Fichu métier que la pharmacie. En voilà la preuve. On n'est jamais tranquille, on n'est jamais sûr de ce qui se passe chez vous quand vous n'y êtes pas. Toujours esclave, à la tâche.
Lorsque Nectar Richefeu et Théodule Lordenois se retrouvèrent dans la rue et purent librement échanger leurs impressions, ils reconnurent, mais non sans indignation ni fureur, que les émotions et les aventures survenues à Genève à l'un d'eux, l'autre les avait à peine peu près identiquement éprouvées à Berne. En d'autres termes, ils avaient été tous les deux abominablement joués par leur jeune collègue Cabrilla, qui s'était empressé de mettre à profit leur absence pour faire avec Mademoiselle d'Adrienne plus ample connaissance, gagner les bonnes grâces du papa Desormeaux, en le guérissant de son rhumatisme, en un mot, pour leur couper l'herbe sous le pied. Ils jurèrent de se venger. Et le soir venu, comme le garçon de peine achevait de boulonner les volets de la devanture, et que Cabria, avant de monter se coucher, allait, selon son habitude, fumer un cigare et boire une chope au café de la mairie, ils surgirent devant lui, armés de cannes, et tout disposés à lui faire un mauvais parti. Cabria eut le temps de rétrograder et de saisir un énorme gourdin oublié dans le porte-parapluie par quelques paysans des environs. Alors, décrivant un artistique moulinet, « Attention, mes braves, méfiez-vous. Ce ne sera pas la pilule avec moi. Je suis fils de maître d'armes, n'oubliez pas. » Et l'extrémité du gourdin passa si près du nez de l'Ardenois que ce dernier se hâta de battre en retraite et de gagner le large, entraînant avec lui l'autre assaillant, le bouillant Nestor. Tous deux songèrent ensuite à intenter un procès à leur mystificateur pour préparation et distribution de substances médicamenteuses sans prescription ni formule émanant d'un docteur en médecine ou d'un officier de santé. Mais Nestor Richefeu avait trouvé une place de premier élève dans une pharmacie de Lyon, et Théodule Lardenois découvert pareil au bain à Dijon. Ils se désistèrent de leur vindicatif dessein et abandonnèrent le traître Cabria à ses remords et à son bonheur.